Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est Libre. Cette semaine, émission un peu spéciale. Je me suis baladé dans la foire du livre de Brive. Je vous y emmène. Ça ne nous empêchera pas de visiter la bibliothèque hebdomadaire, celle de Thomas VDB cette semaine. Nous rendrons visite à notre libraire Thibaut Raden à Vaucresson. Et puis Héloïse Goy fermera la boutique avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord donc direction Brive-la-Gaillarde. La Voix est Libre, c'est parti. Premier chapitre.
Me voilà donc à la foire du livre de Brive et nous commençons cette déambulation dans la foire du livre avec le commissaire général François David. Bonjour monsieur.
Bonjour.
C'est la 39e édition de la foire du livre. C'était comment il y a 39 ans? Comment ça s'est passé? Comment ça a démarré?
Ça a démarré par une histoire de passionnés qui ont commencé une première foire dans les années 70. Et ensuite, il y a eu une interruption. Et en 1982, Jean Charbonnel, maire de Brive à l'époque, a décidé de lancer un grand automne culturel avec la Foire du Livre, qui a connu un grand développement avec l'école de Brive et Robert Laffont lorsque les Tillinac, les Michelet, les Peyramor, autour de Jacques Pochemort, ont mis le paquet sur la Foire du Livre de Brive.
Mais parce que c'était des écrivains du coin? C'est quoi l'idée de départ? C'était de mettre en valeur les écrivains locaux, je pense à Denis Tillinac? Ou alors c'était dès le départ l'idée de faire la fin de la rentrée littéraire au mois de novembre avec tous les auteurs qui viennent avec un train spécial, etc.?
L'idée, c'était de mener une politique culturelle de qualité dans une ville moyenne du centre de la France, sans doute après les prix. Et l'arrivée, effectivement, de l'école de Brive, à une époque où les romans de terroir étaient extrêmement recherchés, a donné le coup de boost avec le train du livre qui a fait décoller cette foire et qui aujourd'hui m'impressionne moi-même. Quand on sait que lors de l'avant-dernière édition, la dernière édition, il y a 2 ans, on a vendu en 30 heures 55 000 ouvrages.
Ah oui, c'est gigantesque. Alors oui, le train du livre, il faut qu'on en parle quand même. Moi, je l'ai pris vendredi matin. Alors les écrivains, certains d'entre eux l'ont rebaptisé le train du cholestérol. Oui. Je sais que vous n'aimez pas trop cette expression.
Non, mais c'est-à-dire que ce train a eu son époque, a eu son époque où on ripaillait beaucoup. Et alors la légende dit que certains avaient même du mal à descendre les marches du train. Mais vous avez pu vendredi observer que si les produits sont donnés de qualité, ils sont donnés dans des quantités tout à fait raisonnables et que sans doute le taux de cholestérol n'a pas dû beaucoup augmenter entre vendredi matin et vendredi soir.
Absolument, mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de joie à Brive à chaque fois, à chaque année. Tout le monde est content de venir à Brive pour la Foire du Livre. Il y a des milliers de visiteurs qui viennent voir les auteurs, mais les auteurs sont ravis de venir. Pourquoi? C'est quoi la spécificité de Brive?
Mais d'abord, je pense que la convivialité, le sens de l'accueil des brivistes, cette ville est fière d'accueillir les auteurs et ça se sent. Et puis aussi, je pense qu'on est après les prix, c'est-à-dire que la grosse pression est partie. Et Brive, c'est la foire qui va conclure l'année, où on vient, où après avoir beaucoup bagarré pour défendre ses poulains, eh bien, on fait la fête ensemble et on repart heureux et ayant passé, j'espère du moins, des moments de qualité culturelle, mais aussi des moments de convivialité. Le président Decoin parlait de jubilé, une foire jubilatoire, et j'espère que cette année aura été aussi une foire qui aura tenu la distance par rapport aux années précédentes.
C'est vrai que c'est un peu le débrief de la rentrée littéraire quand on est à Brive. Tous les auteurs font un peu les comptes, qui a eu quel prix, comment ça s'est passé la rentrée pour toi, etc. C'est ça ce qui est sympathique aussi.
Et là, on a la chance d'avoir tous les grands prix à Brive, mais ce qui me touche, c'est les uns félicitant les autres. Tout à l'heure, j'ai rencontré à la fin de la foire, un éditeur qui venait féliciter son concurrent et lui dire: je suis content pour toi et j'espère que l'an prochain ça sera moi. Et moi, je trouve que ça dit bien cet esprit, comment dirais-je, de rencontre de l'autre. Vous savez, la Foire du Livre, nous les organisateurs, on met en place tout le mieux possible pour que les gens se rencontrent. Mais ce qu'ils vont se dire, ce qui va se vivre à Brive, ça leur appartient. Nous ne savons même pas. Et je me dis que sans doute, il y a des rencontres ici qui ont duré pas très longtemps et qui peuvent marquer des gens pour toute une vie. Et moi, je suis assez fier de ça.
Ah, c'est vrai que les rencontres avec les auteurs, parfois, ça peut être un moment assez intense pour certains lecteurs et certains écrivains.
Ouais. Et je pense aussi aux jeunes, on dit que les jeunes ne lisent pas, mais les jeunes qui viennent et qui rencontrent un auteur peut donner le déclic. Moi-même, qui suis un ancien enseignant, j'ai plusieurs de mes anciens élèves qui ont écrit des livres, et sans doute parce qu'un jour, ils ont rencontré un auteur. Quoi. Et ça, l'altérité fait partie pour moi de l'ADN de cette foire.
Eh bien justement, je vois Philippe Jaénada qui passe par là. Je vais aller le rencontrer. Merci beaucoup, François-David.
Je vous en prie, merci. Et profitez bien de ces derniers moments à Brive en espérant que les jours précédents n'ont pas été trop difficiles.
Merci beaucoup. Bonjour Philippe Jaénada.
Bonjour Nicolas Caro.
Qu'est-ce qui se passe là? Je suis arrivé, je vois un type qui vous sert une bouteille de whisky.
Voilà, c'est ce qui peut m'arriver de mieux sur un salon, mais là, il me prend au dépourvu, j'arrive, donc on est à Brive, hein. J'imagine que vous l'avez dit un peu à vos auditeurs. Et à peine installé, il surgit et il sort de son sac, emmitouflé sous 15 protections, parce qu'évidemment, il y a des contrôles à l'entrée. Une bouteille de whisky, sa femme apparaît à côté, sort des gobelets en carton. Et en fait, ça fait plusieurs années que je croise cet homme extraordinaire, c'est mon meilleur ami, en tout cas, une fois tous les 4 ans. Qui s'appelle Sylvain et qui vient me voir dans toute la région. Là, je l'ai vu la dernière fois à Gradignan, à côté de Bordeaux. Et là, à Brive, il apparaît, il sort une bouteille de whisky de son chapeau et on trinque et il s'en va. Et voilà.
Mais pourquoi, depuis quand il fait ça? Comment ça a commencé?
Ben, ça fait quelques années maintenant. Ça a commencé ici, à Brive. Je vois arriver, je ne saurais pas vous dire, mais il y a peut-être 6-7 ans. Quoi. Je vois arriver une sorte de fou avec un regard illuminé, qui me regarde fixement et qui me dit « je viens pour vous de faire quelque chose ». C'est un homme honnête qui ne transgresse pas les lois, mais là, qui avait réussi à passer. À l'époque, c'était en plus, on a toujours des problèmes. Là, c'est le Covid, à l'époque, c'était plutôt le terrorisme. Il avait réussi à passer les contrôles avec une bouteille de Oban dans son sac. Et donc voilà, ça fait partie de ces petites joies, mais intenses, des salons du livre et de ce parcours assez spécial de la promotion d'un livre.
Et c'est une marque de whisky qui apparaît dans vos livres. Mais en fait, je me dis que vous devez bien aimer les salons parce que je pense que les gens doivent être... Je ne sais pas, quand on vous lit, on a l'impression qu'on aimerait bien boire un verre avec vous, en fait, pour de vrai. Et donc, j'ai l'impression que les gens arrivent dans cet état d'esprit-là, quoi, comme s'ils vous connaissaient, comme si vous étiez déjà un peu amis, quoi. Ou en tout cas, partenaire d'apéro.
Oui, je pense que c'est parce que dans mes livres, des petites astuces, des petites méthodes de romancier, mais dans mes livres, j'essaye d'être le plus sincère possible et le plus proche des gens. Moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est que ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que je pense, de drôle ou de triste, soit transmis par l'intermédiaire du papier et de l'encre au lecteur. Donc s'ils ont l'impression qu'on est amis et qu'on est proches, ça me fait évidemment très plaisir. Et dans mes livres, je cite la marque de ce whisky, mais aussi le bistrot en bas de chez moi. Je le mets dans mes 4 ou 5 derniers livres, le bistrot en bas de chez moi, où je vais tous les soirs, en dehors des périodes de promo où je ne suis jamais là, mais où je vais boire un coup. Et je vois débarquer tous les soirs des gens qui me disent « J'ai lu dans votre livre que vous veniez boire un coup ici, trinquons ». Et voilà, c'est un plaisir, quoi, c'est un vrai plaisir.
C'est un bistrot rue Lafayette, je le dis pour mémoire. On va boire un petit verre, on se retrouve dans un instant.
Europe 1. 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue toujours à la Foire du Livre de Brive et je suis toujours avec Philippe Jaénada qui était en train de signer. Il y avait une longue file d'attente tout à l'heure et vous prenez votre temps, j'ai remarqué, pour signer. Vous discutez beaucoup avec les gens ou c'est eux qui vous tiennent la jambe ou vous vous dites il faut que je leur consacre quand même un temps minimum, vous chronométrez un peu, comment ça se passe?
Non, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que je pense que si on est... Je ne sais pas, Brad Pitt ou quoi, il suffit de mettre une signature sur un morceau de papier, les gens sont contents. Moi, j'ai envie de parler un peu avec les lecteurs. Et eux, je pense qu'ils sont contents de rencontrer. Il y a un lien, comme on disait tout à l'heure, il y a un lien de proximité et qui n'est pas artificiel. Hein, un lien de proximité qui se crée entre le lecteur et l'auteur. Moi, quand je lis un livre, chez moi, dans mon lit, j'ai l'impression de me rapprocher de l'auteur. Donc évidemment, si on peut discuter, ce n'est pas non plus des heures, mais si on peut discuter... 2-3 minutes, et puis j'ai pas quand même, contrairement à ce que vous disiez à l'instant, j'ai pas non plus des files immenses devant mon stand, donc j'ai le temps, ça me gênerait, je pense, si j'avais 100 personnes qui attendaient de discuter 5 minutes avec chacun, là ça va, ça reste raisonnable, et ça permet Ben oui, mais moi j'ai envie, eux ont envie de voir un peu si je suis plus
aussi ou moins sympa que vous en avez l'air.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis moi j'ai envie de savoir ce qu'ils ont aimé dans les livres. Il y a un truc fascinant quand on écrit des livres que j'aime beaucoup vraiment, c'est que les lecteurs n'aiment pas les mêmes choses, les mêmes livres, des gens aussi sympathiques et intelligents et drôles les uns que les autres n'aiment pas du tout les mêmes choses. Donc moi je demande toujours un peu ce qui les a le plus. Ça ne me sert à rien parce que je ne peux pas écrire des livres en fonction de ce que les gens attendent, mais enfin je trouve ça intéressant. Il y a des gens qui me disent la première partie de votre livre, vraiment j'ai adoré, et je vous avoue, puisqu'on se connaît maintenant, la deuxième ça m'a un peu gonflé. Et puis d'autres, l'inverse, qui me disent j'ai réussi à franchir les 300 premières pages parce que je vous aime, j'aime vos livres et que j'ai voulu continuer. Et alors après, formidable. Enfin, je trouve intéressant de voir le regard que les lecteurs, ou que j'imagine les spectateurs d'un film ou les gens qui regardent un tableau, portent sur une œuvre. Il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelait Marcel Duchamp, et beaucoup d'autres ont dû le dire. Une œuvre d'art, c'est 50% celui qui l'a créée et 50% celui qui la reçoit. Quoi qu'il a.
Justement, c'est une question qui me passionne, ça, la critique. Vous venez de le dire, parfois une critique est chassée par une autre, et certains aiment tel aspect et les autres tel autre, et inversement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je veux dire, quand on est écrivain.
Moi, je suis jamais ni vexé ni blessé par les critiques, parce que je sais, et en fait, j'ai été bien baptisé, c'est-à-dire que mon premier roman, mon premier manuscrit, il y a maintenant belle lurette, il y a 25 ans, je savais pas quoi en faire, je connaissais personne, et je l'ai envoyé aux deux personnes les plus proches de moi qui se connaissaient pas, deux personnes plus âgées que moi à l'époque, un homme et une femme, et qui étaient tous les deux presque des mentors pour moi. Je leur ai envoyé le manuscrit en disant « qu'est-ce que tu en penses ?» Le garçon m'a dit, l'homme m'a dit Je t'avoue que la première moitié, ça m'a saoulé. J'ai continué juste parce que c'était toi. Mais par contre, après, ça prend une ampleur formidable. Et la femme, qui était tout aussi proche et tout aussi importante pour moi, m'a dit, la première moitié, qu'est-ce que j'ai rigolé, mais quel bonheur. Par contre, la fin, ça m'a saoulé, mais saoulé. À partir de là, je me suis dit, aucune critique, ou aucun compliment d'ailleurs, aucun enthousiasme, n'a de valeur autre que pour celui qui le prononce, quoi. Pour celui qui... Donc moi, on peut me dire, ma propre mère peut me dire, mon grand, ça m'a saoulé ton livre, peu importe, je serais déçu qu'elle n'ait pas aimé, peu importe. Et donc je prends tout, les bonnes choses, les mauvaises, en sachant que ça n'a pas d'importance. Chacun prend dans un livre, et moi le premier, ce qu'il a envie d'y prendre, et le reste, tant pis.
Est-ce que c'est parfois gênant, justement, cette proximité que vous pouvez créer avec les lecteurs dans vos livres? Est-ce que parfois, il y a des gens qui arrivent et qui sont vraiment beaucoup trop familiers, quoi?
Non, je pense que nous, on a un avantage, les écrivains, les auteurs, c'est que ça ne devient jamais... Moi, il m'est arrivé de côtoyer des acteurs ou des chanteurs. Eux, ça peut être vraiment invasif, quoi. Nous, c'est toujours sympathique. Moi, je vois au Bistrot Lafayette, donc j'ai régulièrement, pas tous les jours, mais presque, des lecteurs qui débarquent au Bistrot Lafayette, mon bistrot, là, en bas de chez moi. C'est jamais, ils sont contents si on boit un verre ensemble, sinon, voilà, c'est jamais, c'est toujours que du plaisir, ou parfois de la gêne pour moi si j'ai pas assez de temps à leur accorder, mais ça s'arrête là.
Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent en vous disant « il faudrait raconter l'histoire d'un tel ou un tel que je connais bien, c'est une affaire criminelle incroyable, ça va beaucoup vous plaire, etc. » Est-ce que ça arrive aussi en dédicace ?
Très souvent, ça arrive partout maintenant depuis, donc ça fait 4 livres, mes 4 derniers livres là parlent de faits divers ou de biographies de gens qui ont eu affaire à la justice. Ça m'arrive au bistrot sans arrêt, ça m'arrive dans ma famille, des gens de ma famille qui me téléphonent pour me dire j'ai une affaire incroyable, et en dédicace dans les salons ou les librairies, c'est très fréquent, mais vraiment très fréquent. Si je vous raconte l'histoire de ma grand-mère, c'est le Goncourt assuré, elle a été accusée d'avoir volé la chèvre de son voisin, ou des trucs beaucoup plus importants, j'ai des avocats qui viennent, des confrères auteurs, là, dans le train pour venir à Brive, trois confrères m'ont dit, il faut que je te parle, il y a une affaire incroyable, c'est pour toi.
Et vous êtes demandeur ou...
Oui, je suis demandeur parce que des affaires, il y en a plein. Et puis, seules certaines peuvent faire des livres, selon moi, intéressants, dans la manière qui est la mienne. Mais voilà, il faut... Quand on est pêcheur, on étend un grand filet, puis on voit ce qu'il y a à l'intérieur et on garde les poissons qui nous intéressent. Quoi.
Dernière chose, est-ce que dans les dédicaces, comme ça, les signatures, vous avez un peu peur ou une appréhension qu'un proche du dossier que vous avez traité, ou éventuellement même un protagoniste, passe derrière un de vos lecteurs que vous êtes en train de signer, il arrive et se pointe et dit « voilà, c'est moi, je suis un tel ».
Oui, c'est des... Alors peur, ça serait beaucoup dire, mais parce que moi, en plus, ce sont des vieilles affaires. Hein, souvent, mes 3 derniers livres, c'est les années 40, 50 et 60, mais il y a toujours des descendants, il y a des enfants, et je comprendrais tout à fait que ça choque ou que ça blesse certaines personnes. Là, par exemple, pour mon avant-dernier livre, La Serpe, je parlais d'une affaire qui a été très importante à Périgueux il y a 80 ans, mais quand je suis allé plusieurs fois signer à Périgueux ou faire des rencontres, je guettais toujours la personne qui allait courir vers moi avec une serpe et me découper en rondelles parce que j'avais dit du mal de son grand-père ou de sa grand-tante, quoi. Mais oui, voilà, quand on écrit sur le réel, et encore une fois, moi, je n'écris pas sur le réel contemporain de maintenant, donc je suis un peu protégé, on n'a qu'à dire, mais il faut s'attendre à ce genre de choses et essayer bravement de faire face.
Merci beaucoup Philippe Jaénada, et je conseille une nouvelle fois Au printemps des monstres chez Mialet Barreau. Merci beaucoup Philippe.
Merci Nicolas, salut.
Ah, je vois Bernard Werber qui passe, tiens, on va aller lui dire un mot. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Ah, je vous ai vu tout à l'heure, là vous étiez en train de signer, il y avait une file d'attente gigantesque. C'est toujours comme ça pour vous les dédicaces? C'est énervant pour les autres à côté?
Brive, c'est quand même très sympa parce que c'est l'endroit en effet où c'est un rendez-vous annuel où il y a vraiment beaucoup de monde. Mais cette année, ce qui est bien, c'est qu'ils ne m'ont pas placé près de la porte. Chaque fois, je prends un rhume parce que je suis près du courant d'air. Et je me suis protégé par les lecteurs qui font la queue, en effet. Donc, c'est vraiment un rendez-vous un peu spécial.
Bon, évidemment, ce n'est pas la mine. Hein, mais est-ce que c'est un peu dur quand même physiquement? Et est-ce que ça fatigue aussi la rencontre? Il faut être un peu concentré avec les gens pour pas qu'ils aient l'impression qu'on signe comme ça rapidement. Aurélie Valogne, par exemple, elle me disait qu'elle faisait des tendinites au poignet. Comment ça se passe pour vous?
Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai commencé mes premières dédicaces. Il n'y avait personne qui venait. J'étais tout seul en train de relire mes propres livres pour essayer de donner contenance. Et peut-être à ce moment-là, j'ai fait le souhait qu'un jour il y ait du monde. Donc là, je ne vais jamais me plaindre de trop dédicacer. Vous savez, la vraie angoisse pour un auteur, c'est quand il n'y a pas de gens qui viennent. Donc on ne sera jamais nous plaindre quand il y a du monde. Quant à la tendinite, il faut s'organiser. Il suffit de dédicacer avec l'autre main. Voilà, c'est un petit conseil que je peux donner.
Vous êtes marrant, vous, faut déjà pouvoir écrire des deux mains.
Ah, mais évidemment, la dédicace de l'autre main est souvent un peu plus bâclée, mais c'est une manière de soulager son poignet. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, moi.
Reposez les poignets, on revient dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
Retour de La voix est livre avec Bernard Werber, que j'ai croisé dans les travées de la foire du livre de Brive, qui signe beaucoup Bernard Werber. Et vous avez à chaque fois des histoires de dédicaces incroyables. Vous avez plein d'anecdotes avec les dédicaces. Je crois même que vous avez rencontré votre compagne pendant une dédicace, je me trompe?
Oui, c'était au Salon du Livre de Nice. Et oui, c'était une jeune fille qui m'a dit... Je suis l'arcane 6 du tarot, et elle s'appelait l'amoureux, et l'arcane 6 c'est l'amoureux, et j'ai trouvé ça intriguant, mais oui, c'est pas, ça arrive quand même pas souvent que je rencontre des gens avec lesquels je suis resté 3 ans avec elle, dans lesquels j'ai resté autant de temps, mais c'était une lectrice qui est devenue aussi écrivaine, et on est resté amis voilà, après cette rencontre, mais c'est souvent l'occasion de rencontrer des gens qui m'apportent des informations sur mon propre métier. Vous voyez là, maintenant que j'ai sorti un livre sur les abeilles, il y a beaucoup de gens qui me parlent de leur métier d'apiculteur. Donc quand je fais l'hypnose, j'ai les hypnotiseurs, et quand je fais les abeilles, j'ai les apiculteurs.
Et les thanatonautes, donc les visiteurs de la mort, hein.
J'ai les médiums, et notamment c'est comme ça que j'ai rencontré aussi Patricia Daré et Anne Tufigo, qui sont deux amis médiums qui me permettent de parler avec les morts.
Mais en plus, les gens ont toujours des choses assez intenses à vous dire, parce que dans vos livres, il y a toujours un peu de métaphysique, des grands questionnements. Ils viennent un peu philosopher avec vous aussi quand ils viennent dédicacer un livre.
Alors, j'essaie d'installer le dialogue dans la mesure où j'ai un peu de temps et où je sens que les personnes, l'échange va être enrichissant pour les deux. Je ne peux pas non plus discuter avec tout le monde, je ne peux pas faire une psychothérapie à tous les lecteurs. Je sais que par exemple Patricia Daré fait pratiquement une séance de médiumnité à chaque lecteur. Il faut mettre beaucoup d'énergie. Il y a un moment, en fonction du nombre de personnes, je règle ma capacité de dialogue. Mais c'est sûr que quand il n'y a pas trop de monde ou en fin de file, c'est plus facile pour moi de dialoguer. Surtout que certaines personnes ont vraiment des vécus extraordinaires avec le livre et des choses passionnantes à me raconter.
Mais le truc avec vous, c'est que vous avez aussi écrit quelques romans cultes. Et alors là, bon, en ce moment, vous signez La prophétie des abeilles. Mais est-ce qu'à chaque séance, il y a toujours quelqu'un qui vient avec un vieil exemplaire des fourmis ou des thanatonautes ou du papillon des étoiles?
Alors c'est une des choses que je redoute et en même temps que j'apprécie. Ces gens qui arrivent avec le grand sac et dans lequel ils me sortent tous les 30 livres et je dois tous les dédicacer.
C'est déjà arrivé ?
Ah, ça arrive pratiquement une fois à chaque dédicace. Il y a toujours une personne qui arrive qui dit « ça vous gêne pas, je vous ai amené tous les livres ». Alors il y en a qui sont très vieux, qui sont très abîmés. Je parle pas des lecteurs, je parle des livres. je leur dis juste une chose, il faut ouvrir le livre pour que je puisse écrire plus vite. Mais mon grand avantage, c'est que je travaille avec des feutres et je fais des dessins. Et donc ça glisse. C'est-à-dire, c'est pas comme la petite écriture au stylo qui frotte et qui fatigue le poignet. Moi, je fais en général, bon, là, par exemple, sur la prophétie des abeilles, je dessine une abeille. Donc, j'utilise toute la page et je fais glisser le feutre. Et c'est agréable, c'est même une manière de faire du graphisme.
Merci beaucoup, Bernard. La prophétie des abeilles, c'est chez Albin Michel. À bientôt, je crois qu'on se voit bientôt dans La Voix et Livre.
Ça sera un plaisir.
Et je vois Muriel Beyer qui passe, la grande éditrice. Je vais aller lui dire un mot.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est libre.
Bonjour Muriel Beyer.
Bonjour.
Alors je vous présente pour les auditeurs qui ne connaissent pas, mais vous êtes une grande dame de l'édition. Vous avez créé assez récemment finalement une nouvelle maison, ce qui n'est pas une affaire facile, qui s'appelle les éditions de l'Observatoire et qui marche très bien. Vous avez eu le prix de Flore à cette rentrée littéraire avec Abel Quentin. Justement, je voulais vous poser cette question en tant qu'éditrice. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les auteurs veulent absolument être à la rentrée de septembre, qui est quand même un truc un peu violent, quoi. Il y a les prix, il y a des... parfois on passe inaperçu, c'est compliqué. Pourquoi ?
Alors justement, vous venez de le dire, il y a les prix. Alors il y a une tradition française, les prix littéraires, les grands prix, c'est toujours à la rentrée littéraire. Et donc, quand vous dites c'est risqué pour les auteurs, oui, mais quand un auteur écrit un livre, qu'il y croit, que son éditeur y croit, eh bien il ne va pas partir avec l'idée qu'il va passer inaperçu. Donc cette espèce d'engouement comme ça, de se dire bah, on va me remarquer. Et il faut dire qu'aussi c'est tout un système, c'est-à-dire que les médias mettent vraiment le projecteur énormément sur les livres, par exemple les premiers romans. Ça, c'est un exemple frappant. Il y a des dossiers sur les premiers romans, les nouveaux arrivants, etc. Et c'est uniquement pendant la rentrée littéraire. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est une réalité.
Mais alors, bon, il se trouve que pour vous, ça s'est bien passé cette année, mais est-ce que ça vous est arrivé de récupérer un auteur un peu en miettes et essayer de lui dire « Non, mais ton livre est très bien, voilà, c'est pas l'époque, c'est pas... » Qu'est-ce qu'on dit à un auteur dans ces cas-là ? Parce que ça peut être très dur aussi.
Alors on les entoure. Alors c'est vrai qu'on sent assez vite la température. C'est-à-dire que si dès le départ, on sent qu'un auteur, ça a du mal, que ça ne prend pas dans les médias, vous savez, on le voit assez vite, bah là, il faut beaucoup l'entourer et puis parler du prochain et puis parler de la trajectoire. De toute façon, il faut toujours l'entourer. C'est vrai que la rentrée, c'est brutal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'Observatoire, je ne publie que grand maximum 4 livres dans la rentrée littéraire, parce que 4 livres, on peut vraiment s'en occuper. J'ai toujours pensé que quand vous en avez entre 15 et 20, vous pouvez pas vous occuper des 15 et 20 auteurs. Et il y a forcément de la casse et forcément des auteurs désespérés.
Et pour un éditeur, il faut y croire aussi. Enfin, je veux dire, Abel Quentin, son premier roman, il n'avait pas eu le même retentissement que le deuxième, même s'il avait bien marché. Il faut aussi savoir garder un auteur et se dire, j'y crois.
Mais ça, c'est le métier d'éditeur. Si vous ne faites pas ça, c'est un métier qui perdrait beaucoup de son intérêt. C'est-à-dire, vous découvrez un auteur, vous êtes convaincu que cet auteur a vraiment une trajectoire et quelque chose à faire en littérature, et ben vous le soutenez. Vous le soutenez. Moi, Abel Quentin, quand j'ai publié Sœur, qui d'ailleurs a été dans la première sélection du Goncourt, hein, dont les Goncourt l'avaient déjà repéré, je le revendique, que j'avais là la chance d'avoir un véritable écrivain. Donc après, il y a une trajectoire, on le suit, on le soutient. Et je déteste l'idée d'un livre après l'autre. Je pense qu'un auteur, il fait une œuvre.
Même question pour les foires du livre comme ça ou les salons. Quel est l'intérêt pour un auteur de venir ? C'est pour rencontrer des lecteurs ou c'est pour rencontrer le monde littéraire, les autres éditeurs, les camarades écrivains ? Ou c'est les deux d'ailleurs ?
Oui, c'est un peu des deux. C'est un peu la fête du livre. Il y a des timings. Vous avez Nancy qui est le premier salon de rentrée. Et vous avez Brive qui clôt la rentrée littéraire. Donc c'est deux rencontres où à la fois le milieu d'édition se rencontre, à la fois les auteurs se rencontrent entre eux et à la fois ils voient le public. C'est toute cette fête-là quand même qu'il faut maintenir d'ailleurs.
Et la foire du livre de Brive, vous aimez ?
Moi, j'adore la foire du livre de Brive parce qu'il y a un côté festif, il y a un côté détendu. C'est la fin de la rentrée littéraire, justement. Et pour des gens comme nous, à l'Observatoire, où on a terminé avec le prix de Flore, c'est un peu la fête quand même.
Merci beaucoup, Muriel Beyer. C'est le dernier chapitre de cette Voix et Livre consacrée à Brive. On rentre à Paris, visiter une bibliothèque. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix et Livre.
Nicolas Caro.
Et nous voilà de retour à Europe 1 pour la suite de La Voix et Livre. Le comédien Thomas VDB publie un livre, Comédienne Rhapsody, chez Flammarion, avec un titre très Freddy Mercurien. C'était l'occasion de voir de quel livre il se chauffe. Allons-y. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous, un peu loin de Paris. Vous êtes à une heure de route.
Ouais.
Pourquoi vous êtes si loin ? Pour les spectacles et tout ça, c'est pas trop compliqué ?
Si, c'est un peu compliqué. Ça a donné une autre cadence à ma vie, quand même, effectivement. Parce que dès que je sors de scène à l'Européen où je joue en ce moment, je suis obligé de parler vraiment 10 minutes maximum avec mon public après. Et je dois leur dire « Désolé, je vous laisse, il faut que j'aille prendre mon RER à Bibliothèque François Mitterrand !» Donc, et j'arrive à la Bibliothèque François Mitterrand, puis je me mets dans le train pendant trois quarts d'heure.
Et c'est là que vous lisez ? Dans le train ? Et
alors, les moments... En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, comme la vie est vachement plus speed du fait que j'habite plus loin et que donc j'ai beaucoup plus d'aller-retour, en fait, c'est marrant, mais le RER, c'est mon petit moment à moi.
Eh oui.
Et vraiment, c'est mon petit péché mignon, le RER. Vraiment, c'est un truc. Je m'installe, je peux parler pendant trois quarts d'heure, je peux écouter ma musique, je peux lire, je peux aller regarder mon téléphone.
Mais comme vous êtes une vedette, on vous laisse lire tranquille ou écouter la musique ?
Ouais, les gens sont extrêmement bien faits. Je pense, je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression que en ayant quitté Paris, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus détendus et patients dans le RER que je n'ai cru voir des gens patients dans le métro à Paris où des fois on dit on va patienter deux minutes, puis il y a tout le monde qui fait. Et là, en fait, le train s'arrête au milieu des voies à Brétigny-sur-Orge et le mec il dit oh, désolé, on est coincé là pendant une demi-heure et personne ne moufte. Et je suis là, mais voilà, il y a vraiment un délire autour de la patience quand on habite en grande banlieue. Quoi.
Et alors, donc là, on est dans une grande maison, c'est ça l'avantage aussi, avec plein d'escaliers.
Ouais.
Et on est dans ce qui est votre bureau, j'imagine, avec un ordinateur, une table et tout, mais beaucoup de livres et beaucoup de disques, et notamment beaucoup de disques de Queen.
Oui.
Il y a au moins 150 disques de Queen, des 45 tours, plein d'éditions collector et tout ça. C'est quoi votre truc avec Queen ?
J'ai un truc. Quand je deviens fan d'un artiste dans ma vie, je m'accroche à lui et je dis je veux tout, je veux toutes les faces B, je veux tout ce qu'il a fait. Et donc il y a eu plein de musiciens, plein de comédiens dans ma vie dont j'ai croisé l'œuvre et donc ça a tout changé à un moment. Donc il y a Queen, il y a les Sparks, il y a Weezer, il y a Spoon, les New Pornographers, de Fess No More. Enfin, il y a eu plein d'artistes comme ça que j'ai adoré à un moment. Et c'est pareil un peu avec les écrivains, d'ailleurs. Avec les écrivains, j'ai le même...
Justement, il y a beaucoup de livres, et notamment toute une pile de livres sur les comiques américains. C'est ça ?
Oui, sur ou deux, parce que ça, c'est un truc qui existe beaucoup aux États-Unis. Enfin, oui, il y a beaucoup de comiques américains qui écrivent leurs mémoires. Qui a un truc qui n'existe pas beaucoup en France. Il n'y a pas beaucoup les mémoires de Laurent Gérard. Enfin, si, ça doit exister, d'ailleurs. Je n'ai jamais fait gaffe. Mais bon, genre, la vie de Tex. Mais là, bon, beaucoup d'humoristes américains ou anglais que j'adore ont effectivement écrit leurs mémoires. Et donc, j'adore lire ces livres de mecs qui racontent leur vie. Parce que le but, ce n'est pas d'être hyper nombriliste et de raconter sa vie. Le but, c'est d'être drôle. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai écrit. Alors, je rebondis sur la promo de mon livre parce que je sors mon livre ces jours-ci qui s'appelle Comédienne Rhapsody. Donc, il raconte l'histoire. C'est l'histoire de ma passion pour la musique, en fait. Et donc, je l'ai fait un peu dans cet esprit-là, dans l'esprit de me dire, quitte à parler que de moi-même et de faire un truc vraiment qui, a priori, n'intéresse personne, autant faire un livre que je veuille drôle, quoi. Et donc, j'ai essayé de faire un livre le plus drôle possible. Ça ne veut pas dire qu'on pleure à toutes les pages. Hein, mais
Alors, il y a beaucoup de romans aussi. C'est un peu mélangé.
Ouais,
mais
c'est très, très 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 bazar hein, tout ça, j'avoue que...
Oh, vous avez Épépé de Ferenc Kerinti, qui est
un
Hongrois.
Ouais, je sais, mais j'ai lu le quatrième de couve 25 fois, hein, pas de problème.
Alors, Emmanuel
Carrère. On peut parler des livres, parce que là, il y a un truc, il y a plein de livres ici, mais il y a énormément de livres que j'ai pas lu.
Ah bah ça, heureusement, tant mieux, quoi, ça fait plein de livres à lire, quoi.
C'est un sketch que je fais dans mon précédent spectacle, qui s'appelait Bon chien à chien, j'avais un sketch sur ce sentiment de gourmandise culturel un peu qui nous anime quand on passe devant une librairie et qu'on se dit et qu'elle est, y a une belle devanture, on dit oh, je veux me cultiver là mon pote, je veux bien me cultiver. Et puis des fois on rentre dans la librairie et puis on achète 10 livres, on est ah ouais attends je vais lire tout ça et tout, puis en fait on arrive à la maison, on dit tiens je vais regarder la vidéo du chien qui fait du vélo sur YouTube plutôt, et en fait les livres attendront.
Mais PP, c'est donc, pour vous, hein, c'est complètement absurde. C'est un type qui s'endort dans un train, qui se réveille, il arrive dans un hôtel où ça parle pas d'une langue, oui. Langue complètement.
Ouais, je l'ai commencé. Quoi. Je suis un immense commenceur.
Ouais.
Oh là là là.
Bah, c'est déjà bien.
Alors, tiens, là, puisqu'on parle de livres à commencer, regarde, voilà où je me suis arrêté.
Le Comte de Monte Cristo.
Le Comte de Monte Cristo.
Qui est dans chaque bibliothèque que je visite.
Oui, ben alors, celui-là, vraiment, je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Parce que ça faisait hyper longtemps que j'entendais « Ah non, mais attends, on croit que c'est chiant, le Comte de Monte Cristo. » Mais c'est génialissime. Et en fait, je me suis dit « Bon, il faut que je lise le Comte de Monte Cristo. » Et j'ai commencé le Monte de Cristo. Donc voilà, en une édition, il fait 1300 pages.
Bah, c'est ça, votre grosse erreur. Il faut le prendre en tome.
Ouais, mais j'ai peur de ne pas avoir le tome 2 quand je finis le tome 1.
C'est hyper lourd déjà, rien que de le tenir. Quoi.
Alors, j'ai commencé à lire, j'ai trouvé les 400 premières pages, mais... incroyable, ouais. Mais incroyable, j'étais là, c'était Breaking Bad. Quoi.
Jusqu'à l'évasion.
Après l'évasion et tout, et après on se retrouve dans un carnaval à Rome, ou à Venise, je sais plus, et pendant 20 pages, t'es là, qu'est-ce qui se passe là ? C'est plus les mêmes persos, c'est des gens chiants qui font au carnaval, ouais. Et 100 pages plus loin, je suis toujours au carnaval. Je dis, bah, là, moi j'arrête là maintenant, j'en ai marre du Comte de Monte Cristo, parce que c'est le Comte du carnaval là. Et donc j'étais là, en fait, j'ai adoré les 400 premières pages, toute l'histoire de la trahison et tout, et donc j'ai pas suivi la vengeance qui se passe après.
Mais accrochez-vous, parce qu'après, c'est vraiment, ça enchaîne la vengeance, là, un par un, paf, paf, paf.
Que vous êtes allé au bout, vous ?
Ah, mais 10 fois.
Oui, non.
C'est mon roman préféré.
C'est vrai ?
Ouais. Je le relis et
mais
je le
mais on est d'accord, mais ça s'arrête quand le carnaval, là ? Moi, j'en peux
et
plus.
Eh bien, bientôt. Il y a une exécution aussi à mort, donc déjà, ça, c'est.
Au carnaval ?
Ouais.
Ok.
C'est un petit peu. Voilà. Un peu plus funky. Et puis après, il y a des trucs de fou, quoi. Mais je vous dis pas.
Je suis vraiment à la moitié.
Jusqu'à la rédemption finale, la fin est merveilleuse.
Oui, non, mais je suis sûr. Non, mais évidemment, je sais que la fin est géniale. Je l'ai pas lu, mais je le sais.
Justement, la dernière phrase. C'est attendre et espérer.
Oh ben voilà, ben, j'ai plus besoin de le lire maintenant.
C'est pareil.
Je connais la fin. Je connais la fin.
Et ça, c'est quoi les praticiens de l'infernal ?
Alors ça, on fait bien en parler parce que c'est
Pierre Lapolice.
Pierre Lapolice est un illustrateur de presse et donc dessinateur. Il fait beaucoup de presse. Il a travaillé longtemps aux Incorruptibles. Aujourd'hui, on le voit beaucoup dans Society.
Ah oui, d'accord.
Et il a ce dessin bien à lui.
Ouais.
Avec cette
Comment dire,
c'est très difficile à dire. Il y a un côté dégueulasse dans ces dessins. Les personnages, beaucoup de personnages avec des triples mentons, des trucs comme ça.
Ouais, c'est la copie des Simpsons. Là. Vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle, la famille. Là. Ça, avec le type un peu grassouillet avec un double menton.
Ah oui, Family Guy.
Family Guy.
Oui, il y a un tout petit truc comme ça dans le dessin. Mais l'humour de Pierre Lapolice, qui a un humour du niveau de langage, en fait. C'est-à-dire... c'est de l'absurde pour moi. C'est genre, ça m'est arrivé mais de pleurer de rire en lisant des trucs, parce qu'il a fait des fausses brèves. Il a fait des fausses brèves, donc ça, c'était des brèves de presse qui étaient éditées à l'époque dans les Incorruptibles, et c'est des fausses news de magazines. Donc, et c'est vraiment des trucs absolument absurdes.
Ah,
donc,
oui.
Il a écrit Super Cagnotte de l'État, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les 50 milliards en trop ? Et donc, la réponse, la France va acheter un nid guêpe pour le montrer aux élèves des écoles à titre éducatif pour qu'ils voient bien comment c'est fait. Donc, c'est vraiment. On dirait que c'est un enfant de 4 ans qui fait des faux journaux.
Réaction de Laurent Fabius, il faudrait faire cramer des pneus. Bon.
Voilà, donc c'est vraiment des trucs complètement absurdes et gratos.
Il y a une autre pièce avec des livres.
Oui.
Tout en haut. Une énorme pièce d'ailleurs.
Oui.
On prend encore des escaliers.
Oh là là, ouais. Donc, oui, alors c'est un mélange de livres, de bibliothèques et de salles de jeux des enfants. Donc, et de gros bazar, n'ayons pas peur de le dire. Donc, beaucoup de
Lego, y a même un petit théâtre.
Lego monté ou démonté.
Il y a un petit théâtre, c'est pour dire à vos enfants, ah voilà, alors, papa est comédien.
Papa, il répète son stand-up au petit théâtre, exactement.
Mais c'est vous qui jouez avec ou c'est vos enfants qui font le spectacle ?
Non, mes enfants jouent avec, mais j'ai déjà essayé de les faire rire en faisant ce truc-là avec les bonhommes.
Et donc là, donc c'est une salle de jeu et il y a des étagères basses tout autour de la pièce et une grande au fond. On est sous pente, là.
Ouais, ouais, c'est sous bassement, comme on dit.
Et il y a des Legos et tout. Comment ils sont rangés, les bouquins, ici ?
Alors là, c'est un peu le bazar, encore une fois. Donc là, il y a beaucoup de cinéma et de comédie. Beaucoup de là, des trucs un peu sur l'occulte, sur le satanisme. Et sur,
oui.
J'aime bien tout.
C'est le côté rock ou...
Non, c'est que ça m'amuse, les mecs, à chaque fois. J'adore les lire des histoires de gars qui s'habillent en noir pour aller faire des messes noires. C'est pas juste parce qu'en fait.
Ça vous a jamais tenté ?
Ah non, pas trop, non. Mais en fait, non, je sais pas, j'y vois une matière. Enfin, ça me fait tellement halluciner de me dire qu'il y a des gens qui font ça, genre qui font des rituels et tout. Que... Donc, dès qu'il y a des histoires qui sont liées à ça, j'avoue, j'aime bien.
Et les grands classiques, vous les lisez aussi, les Fitzgerald et tout ça
ou... Principalement pas, quand
même. Parce qu'il y a aussi les livres de votre compagne, là. Donc,
Comment ?
Il y a aussi les livres de votre compagne.
Il y a les livres de ma compagne. Donc, il y a tous les Russes, parce qu'elle est hyper calée, tous les Tolstoï, Dostoïevski, Tolstoïevski même, je pense. Non. Mais donc, mais vraiment, elle a tout lu, elle a lu tous les trucs de Tolstoï, tous les trucs de Dostoïevski. Donc, dès que j'ai envie de savoir si c'est bien, je lui demande, elle me dit, ça c'est bien.
Il y a plein de bibliothèques roses aussi, des vieilles éditions.
Ah, mais moi, le Club des Cinq, c'est tous les jours. Non, mais ça, c'est
vous
des vieux livres.
Vous étiez quel lecteur quand vous étiez enfant ?
Qu'est-ce que je lisais quand j'étais enfant ?
Gros lecteur ou c'est venu plus tard ?
Non, c'est venu plus tard quand même. Si je lisais le petit Nicolas, je lisais des trucs, je lisais Goscinny, beaucoup de BD évidemment.
Mais... Ah oui, il y a des BD ici ?
Ah, il y a beaucoup de BD. J'ai hérité. Alors moi, j'en achète, mais j'ai surtout hérité de la collection de bandes dessinées de mon beau-père,
qui nous l'a caché. Elles sont cachées dans des placards.
Qui nous en a fait cadeau. Et donc, il y a beaucoup de Tintin originaux, tu vois, ouais. Des Gaston, des Lucky Luke, des premières éditions de Lucky Luke.
Des pieds nickelés.
Les pieds nickelés. Donc, il y a tous les pieds nickelés. Il y a aussi des trucs que je n'ai pas lus, hein, genre de Buck Rogers, mais des gars. Des trucs dont je voyais surtout les noms au dos des BD que je lisais. C'est des fois, je lisais Gaston Lagaffe assidûment, puis derrière, je voyais tous les trucs qu'il y avait que je ne lisais pas. Yoko, l'hôtesse de l'air, jamais lu ça.
Mais c'est vrai que. C'est un compliment, mais vous avez un côté dans vos spectacles un peu personnage de BD. Ça vous parle ou...
Ouais, mais en fait, en tout cas, Gaston Lagaffe, on m'a déjà dit, je suis pensé à Gaston. Je pense ça comme un...
Ça, c'est moyen.
Ah si, je pense ça complètement comme un compliment. C'est quelqu'un qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Enfin, ouais, qui n'a pas rêvé devant Gaston Lagaffe, mais c'est...
Mais qui est un peu crispant, quoi.
Ah ben pour Prunel et Fantasio, j'imagine, mais il a l'air bien dans sa tête, Gaston. Il a l'air complètement détendu. Donc... Ouais, c'est marrant. S'il y a une fois dans ma vie où j'ai pu rêver de travailler dans un bureau, c'est parce que je lisais Gaston Lagaffe et je me disais, mais ça a l'air génial, la vie de bureau. Et ensuite, j'ai travaillé dans un bureau. Je sais, en fait, c'est chiant. C'est chiant, le bureau, en fait. Voilà, j'essaie de regarder un peu des trucs des livres de cinéma. Il y en a, ouais, des vieux trucs. Ça, c'est les premiers livres que j'ai achetés quand j'étais gamin parce que j'ai une période où j'étais obsessionnel de la. Du cinéma, en fait, quand j'étais gamin, j'étais vraiment à 11-12 ans. Ça, c'est des collections de livres que j'ai achetées à 11-12 ans.
Ah ouais, assez pointu.
C'était des livres de Pierre Tchernia qui faisait ses listes des plus grands succès. Donc, c'est vraiment des livres un peu très, très critiques, mais très basiques. Quoi,
mais hyper c'est bien illustré.
Voilà, très. Et donc, il y en a sur tous les genres musicaux, sur le policier américain. Et ça, c'est des livres que j'ai compulsés quand j'étais gamin, mais alors, sur le fantastique.
Et ça vous a quitté un peu, cette passion-là ?
Ah, ben, je suis devenu un moment dans la vie la musique a pris le pas sur le cinéma, c'est-à-dire que c'était plus important pour moi de passer beaucoup de temps à écouter de la musique qu'à regarder des films quand même, même si
Vous avez des manuels d'écriture aussi, l'anatomie du scénario très connu de John Truby.
Ouais,
alors writing television sitcoms.
C'est assez amusant de compter le nombre de livres que j'ai sur l'écriture de scénario et de le comparer avec le nombre de scénarios que j'ai écrit.
Mais c'est utile ou pas?
Non, c'est certainement utile à des gens. J'y ai découvert des choses intéressantes. Et en fait, le mieux que j'ai dans ce genre-là, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai prêté. Donc, autant dire, c'est sûr, je ne vais pas le revoir. Ça s'appelle La dramaturgie de Yves Lavandier.
Ah oui.
Donc, belge. Un clown belge ou français, je ne sais plus.
Je sais pas.
Qu'un clown et scénariste et prof de scénario qui a écrit un livre non pas sur les techniques d'écriture de scénario, mais sur pourquoi depuis toujours les hommes... aime se raconter des histoires. Et comme postulat de départ, ça rend le livre vachement plus nourri et donc intéressant. Et ce n'est pas des techniques avec des flèches. Mmh. Personnage principal, seconde intrigue B. Parce que ça, c'est ce qu'il y a dans les livres de John Truby et tout. Je trouve ça un peu emmerdant à lire. On dirait des formules mathématiques pour raconter une histoire. Et Lavandier a une façon d'en parler donc, dans son livre, La dramaturgie, qui est vraiment géniale.
Merci beaucoup, Thomas VDB.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
Cool.
De retour en studio et je rappelle Comédienne Rhapsody, c'est le nouveau livre de Thomas VDB chez Flammarion. On va remplir la bibliothèque, tiens, en cherchant dans une librairie celle de Thibaut Raden à Vaucresson.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre, le retour. Il est l'heure de visiter un de nos libraires et nous partons cette semaine à la librairie L'Écriture de Vaucresson. Bonjour Thibault Raden.
Bonjour Nicolas.
Alors, deux livres aujourd'hui. Un roman, vous avez juste marqué chef-d'œuvre sur la petite étiquette que vous mettez pour vos clients. Exactement. Et puis un livre d'art, par lequel on commence?
Exactement, on va commencer par Shinanga de Brigitte Koyama Richard. C'est aux éditions Scala. Et en fait, c'est un livre d'art sur le Shinanga. Le Shinanga, c'est des estampes japonaises, mais du XXe siècle. On a tous tendance à connaître Hokusai, Hiroshige pour l'ukiyo-e. Alors, je crois que ça se prononce comme ça. Là, le Shinanga, c'est très différent. On avait découvert ça avec Anne, ma collègue, parce qu'on avait découvert Kawase Azui, qui est un artiste extraordinairement doué et très, très bon. Et on voulait un livre sur le Shinanga à un moment donné. Ça s'est arrivé, donc je devais en parler.
Mais la Shinanga, c'est une école,
c'est oui, en fait, c'est un genre d'estampe. Il y a plusieurs manières d'imprimer des estampes. Le Shinanga, c'est une autre manière de le faire. Et c'est aussi très inspiré par l'école de la peinture européenne. Parce qu'à ce moment-là, le Japon, le Shinanga, ça commence vraiment à partir de 1870, quand le Japon s'ouvre au monde. Et comme le Japon s'ouvre au monde, on a cette espèce de besoin d'être un peu moderne. Et donc, les vieilles estampes, le truc un peu plus classique à la japonaise, marchent moins. Mm-hmm. Et donc, les éditeurs, parce que c'est toujours des commandes d'éditeurs, les estampes, se modernisent. Et donc, elles se modernisent avec énormément d'artistes. Et donc le Shinanga est un genre à part entière et que je trouve magnifique parce qu'il a tendance, en fait, je trouve, à déconstruire ce qu'on sait des estampes. Il y a par exemple pas mal de... Il y a du contraste, il y a de la forme qu'il y a moins dans les estampes classiques. Il y a aussi une espèce de modernité qu'on voit, c'est très européen, c'est très beau. Il y a une manière aussi de montrer les corps qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir aussi.
Il y a des geishas,
il y a tout,
des femmes en train de se coiffer,
ouais, et puis il y a des femmes,
combattants.
Il y a même des femmes en train de fumer, ça j'aime beaucoup. Il y a aussi, non, ça c'est pas des combattants, c'est des artistes en fait. Il y a beaucoup de portraits.
C'est pareil.
Oui, certes. Il y a beaucoup de portraits d'acteurs en fait. Enfin, ils sont extrêmement doués. On voit qu'entre il y a une photo du vrai acteur et il y a l'estampe à côté, il y a un réalisme qui est fou. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Et il y a des paysages. Ça me rend assez dingue. Donc, c'est vraiment très beau.
C'est un grand format.
Ouais, et c'est très beau. C'est à découvrir. Et puis, l'autrice a fait un superbe travail parce qu'elle arrive à expliquer très facilement ce que c'est que le Shinanga, son contexte historique. Et en même temps, elle nous parle de ces auteurs qui sont vraiment très, très bons. Magnifique. Et en plus de ça, à la fin, il y a une petite surprise parce qu'il y a aussi des Français et des Françaises qui ont fait du Shinanga. Oh.
Et donc, ça s'appelle Shinanga, les estampes japonaises du XXe siècle, de Brigitte Koyama Richard, aux éditions Scala. Et ensuite, donc, un roman, disais-je. Vous avez juste marqué chef-d'œuvre sur la petite étiquette que vous collez sur les livres.
Ouais. Juste pour dire, c'est pas vraiment un roman. C'est un essai. C'est un essai historique sur la création des livres. Alors l'intérêt, c'est Irène Valero qui a fait ça. Ça s'appelle L'infini dans un roseau. C'est aux belles lettres. Et l'intérêt de ce bouquin, au-delà de son sujet qui est passionnant, c'est qu'elle a réussi à vous raconter l'histoire des livres, non pas comme un essai, parce que ça reste ça, mais elle a choisi la forme du roman, en fait. Elle raconte comme une histoire, l'histoire avec un grand H des livres. Et en fait, au-delà du livre fabriqué, il y a aussi toute l'histoire des bibliothèques, des grandes conquêtes, de la culture en soi. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. J'en parlais tout à l'heure avec mon client et j'en pouvais plus, en fait. Plus j'en parlais, plus j'avais envie d'en parler. Et j'ai mis chef-d'œuvre parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce livre. Il parle absolument de tout. Il donne envie d'avoir un nombre de livres incalculable, de tout lire, de tout relire, de prendre ce qu'il y a de mieux dans tous les livres. Même ceux qu'on n'aime pas, finalement, ils deviennent importants, en fait, pour nous, dans cette lecture. Et elle fait aussi quelque chose qui m'a beaucoup surpris, mais que je trouvais hyper agréable, c'est qu'à un moment donné, elle s'arrête de raconter l'histoire et elle vous parle. Elle dit « toi, lecteur », et en fait, elle vous met à contribution dans le livre, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de participer à cette grande histoire qui est le livre. Et c'est magnifique. Il y a un passage que je voulais lire, parce que j'adore cette phrase, je la trouve géniale. C'est vraiment une petite phrase, elle est normalement ici, qui dit « voilà, notre seule conscience, c'est la littérature. La littérature a sauvé les condamnés, inspiré et guidé les amants, vaincu le désespoir, et pour cette raison, elle pourrait peut-être sauver le monde. »
Et c'est une citation de John Cheever.
Exactement.
Cet écrivain.
Ouais,
en fait, c'est un livre qui donne envie d'en lire d'autres. Et l'infini dans un roseau, j'imagine que roseau, c'est pour le papyrus.
Exactement.
Et l'infini pour la littérature.
Exactement.
C'est aux belles lettres d'Irène Valero et Chinanga de Brigitte Koyama Richard aux éditions Scala. Merci beaucoup, Thibault.
Ben, merci, Nicolas.
Retour à Europe 1 dans un instant, c'est la chronique jeunesse avec Héloïse Goy.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, dernier chapitre. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, deux livres, pas un, mais deux livres. Mais on commence par Grandes oreilles, toute oreille, écrit et illustré et mis en musique par la famille Chédid. Un livre mis en musique donc.
Exactement, c'est un livre de famille en fait. Vous connaissez l'écrivaine André Chédid, Nicolas ?
Bien sûr.
Alors peut-être que le nom de cet album vous dit quelque chose parce qu'il s'agit en fait du tout premier album jeunesse qu'elle a écrit dans les années 70. Et cette fois, c'est ses enfants et ses petits-enfants qui reprennent le flambeau et qui en donnent une version musicale. Alors, pour raconter l'histoire, c'est Louis Chédid, son fils, qui est aux manettes. Pour l'illustration de la version papier, c'est sa petite-fille Émilie. Mmh. Et pour la musique, évidemment, c'est Mathieu, alias M, qui M. s'en charge. On l'écoute. Alors là, vous venez d'entendre un extrait de la chanson du nom. Et non,
c'est la chanson du nom, N-O-N.
N-O-N, exactement. Parce que non, c'est un mot que Pilou, c'est le héros de l'album, qui répète très souvent parce que Pilou est malheureux, il est moqué à cause de ses grandes oreilles décollées. Et évidemment, le monde de Pilou et son regard sur lui-même va commencer à changer le jour où ses oreilles grandissent jusqu'à devenir des ailes. Alors il se retrouve à voler à côté des oiseaux, à côté des hirondelles, et puis il voit le monde de haut.
Comme Dumbo.
Exactement. Et c'est ce qui lui permet de s'accepter, d'accepter sa différence et d'en faire même une force. Donc c'est vraiment un joli conte sur la tolérance, sur l'acceptation de soi. Il y a plusieurs titres inédits de M qui sont très agréables à écouter.
Grandes oreilles, toute oreille de la famille Chédid, donc chez Robert Laffont. Coédition Wagram Livre. Et puis il y en a un deuxième, un conte écologique, vous m'avez dit. Et en plus, c'est signé Mélanie Laurent.
Oui, j'étais obligée de vous en parler. J'ai pas su départager aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est un livre important parce qu'il invite les enfants à réfléchir sur l'environnement, sur la préservation de l'environnement. Donc on connaît Mélanie Laurent hein, pour son engagement écologique. Et cette fois, elle s'adresse aux petits en nous racontant l'histoire d'Igor. Igor, c'est un pêcheur qui est sauvé un soir de tempête par Eugénie, la sirène. Alors évidemment, les deux tombent amoureux. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ils ne peuvent pas vivre ensemble puisque la sirène ne peut pas vivre à l'air. Et inversement, Igor ne peut pas vivre sous l'eau. Et du coup, ils se séparent. Mais quand Igor cherche à retrouver sa belle, il se met à pêcher des centaines de poissons. Vous me voyez venir. En fait,
il pêche pas sa sirène quand même.
Bah, c'est son but, il essaye de pêcher sa sirène.
Et il amorce à quoi ? C'est quoi son appât ?
Des filets, je crois. Il y va beaucoup. Mais vous me voyez venir, en fait, l'histoire dénonce la surpêche qui vide nos océans. Donc c'est un livre, c'est même un conte qui est court, qui est efficace. Les dessins de Lucine Plassin sont très poétiques. J'ai beaucoup aimé. Donc le titre, c'est « Les larmes d'Eugénie ». Et c'est aussi chez Robert Laffont.
De Mélanie Laurent et Lucille Plassin. Et donc, Grandes oreilles, toute oreille de la famille Chédid. Merci beaucoup, Héloïse Goy.
Merci, Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpech pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.